12 heures à Kinshasa, mesdames, messieurs, voici les titres de votre journal. 14 personnes perchées sur les trains marchandises de la SNCC sont décédées dans la nuit de dimanche à lundi à la hauteur du pont le samedi dans les territoires des Kanyama. La SNCC qui confirme cette information parle des clandestins puisque les trains marchandises ne transportent pas de passagers. Face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu, le gouverneur des provinces appelle non seulement à l'intervention des partenaires techniques et financiers, mais aussi les populations à stricte observance de gestes barrières. Vous suivrez Karline Zanzoukasevita dans ce journal. Le lieutenant Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il revient sur la situation sécuritaire dans le secteur des Rwenzori qui est encore confuse après une accalmie observée. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de suivre ce journal de Radio Kapi présenté par Pierrot Elameji et Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde. 14 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche au lundi dans les territoires de Kanyama, province du Haut-Lomami. Ce sont des personnes qui étaient au-dessus d'un train marchandise qui partait de Mwenedito vers Kamina. D'après des témoins sur place, les victimes ont heurté le pont couvert jeté sur la rivière Lusenji pendant que le train était en mouvement. Information confirmée par la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo qui parle des clandestins car le train marchandise ne transporte pas des passagers. On écoute Marc Manyanga, le directeur d'exploitation de la SNCC qui est joint par Jean Gandou.
Ce train, il est parti de Kimanda après Kanyama à 22h05 et il y a eu quelques clandestins qui étaient montés à bord de ce train. Ils sont allés vers le wagon fermé, mais malheureusement, ils ont oublié que devant eux, sur leur parcours, il y avait un pont qui était couvert. Et c'est comme ça que, comme c'était la nuit, le train roulant normalement, ils sont allés heurter le pont. C'est comme ça que le premier bilan qui nous est présenté, c'est, il fait état de 8 hommes et 6 femmes, 14 personnes. Mais je vous annonce que entre Lubumbashi et Kamina, on est dit tout, parce qu'il y a un nouveau déterminant de luxe béton qui est sur cette relation, qui paye une fois tous les 15 jours. Donc, s'il y a des voyageurs qui voudraient bien prendre le train, qui ne veulent pas ce train-là, mais en attendant ce train, on ne doit pas continuer à risquer sa vie sur des trains marchandises. Les actions de sensibilisation sont en cours, les contacts auprès des autorités locales se poursuivent. La police des chemins de fer interdit à toute personne de monter sur le toit d'un wagon en mouvement, de passer par-dessus les victoires d'un wagon en arrêt ou en mouvement.
À Beni, 10 morts, c'est le bilan provisoire d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADEF dans la nuit d'hier lundi à ce mardi à Kitoviroa. Kitoviroa, c'est un village du secteur des Rwenzori, près des Mwenda. Selon la société civile locale, la plupart de ces victimes ont été tuées à l'arme blanche. André Kitenge nous en dit plus.
C'est vers minuit que les assaillants ont attaqué le village Kitoviroa, près de Mwenda, à 9 km de Mutwanga dans le secteur de Rwenzori, affirme le président de la société civile de Loselose. Roger Musubao regrette pourquoi ces assaillants ont visé ce village qui accueille chaque jour des déplacés fouillant les atrocités dans le Rwenzori. La même source affirme que le bilan des 10 personnes tuées reste encore provisoire car la fouille se poursuit pour retrouver d'éventuels corps et survivants. Contacté, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord confirme cette information. Cependant, il affirme que les militaires FRDC ont été dépêchés dans la zone aussitôt informés de cette attaque rebelle. Le lieutenant Anthony Mualushai précise que pour le moment, l'armée ne dispose pas encore de bilan définitif. Il dit attendre l'opération militaire en cours visant à poursuivre l'ennemi et à sécuriser la population civile. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, la société civile recommande aux autorités et aux services attitrés d'organiser le plus rapidement possible un état général de la sécurité dans la province. Ceci à la suite de l'insécurité grandissante qui se vit dans la province et particulièrement dans la ville de Bukavu ces derniers jours. Une situation qui prend une allure inquiétante par des attaques qui se déroulent même en pleine journée. La seule nuit du 6 février dernier, la société civile du Sud Kivu, qui s'est dit préoccupée, a répertorié 5 attaques à main armée dans la ville de Bukavu. Maître Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de cette structure citoyenne, explique au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Il ne se passe plus un seul jour qu'on n'a pas enregistré des cas d'insécurité graves soit des tirs de balles par-ci par-là, des pillages, des braquages, des morts d'hommes par-ci par-là. Et ça, ça pose quand même un problème au niveau de la population. Et nous avons demandé à l'autorité de s'investir, de doubler les efforts pour qu'on puisse endiguer ce phénomène qui prend de l'ampleur. Mais la population devrait aussi à son niveau collaborer parce que la sécurité ce n'est plus l'apanage des services de sécurité seulement, mais c'est une affaire de tous et chacun doit faire son travail à son niveau. La province du Sud-Kivu est devenue un théâtre de l'insécurité. Les autorités se contentent de prendre des mesures ad hoc. Nous, on aurait voulu qu'on fasse un état des lieux pour toucher de doigt les causes. Quelles sont les causes profondes, les causes lointaines de cette insécurité et comment trouver des solutions définitives à tout ça. Au lieu de continuer à courir derrière les événements, autant mieux faire un état général de la sécurité en province, qu'on ait un plan de sécurisation.
Insécurité, société civile, on en parle encore à Kananga au Kasaï Central où la société civile du peuple s'inquiète de la persistance de l'insécurité dans cette ville et la province. Le coordonnateur de cette structure a exprimé son inquiétude ce mardi à Radio Kapi. Il propose que le gouvernement central, le provincial dote la police nationale des moyens adéquats pour juguler l'insécurité qui fait rage à Kananga et ses environs. Emmanuel Isaac Aboukapou recommande également à la population de collaborer avec les agents de l'ordre pour traquer tous ces malfaits. Il a été joint au téléphone par Blaise Ndongala Mayanda.
Ça fait pratiquement une année que la population du Kasaï Central n'arrive pas à passer paisiblement là. On viole les jeunes filles, on pue le bien à Kananga. Ça nous inquiète beaucoup, quels que soient les efforts fournis par le gouverneur Haï qui venait de prendre le pouvoir tantôt. Mais nous, dans le cas des sociétés civiles du peuple, nous disons ceci, que la police censée nous sécuriser n'a pas de véhicule. Il y a des véhicules qui manquent même des batteries. Lorsque vous appelez la nuit, on va vous dire qu'on n'a pas de batterie, qu'on n'a pas de carburant. Qui est censé remettre à la police les carburants et les véhicules? C'est le gouvernement. C'est pourquoi nous demandons au ministre intérieur, M. Kankonde. Et le chef de l'État lui-même doit s'impliquer pourvu qu'on puisse doter la police du Kasaï Central, la Kananga, de moyens de transport conséquents, le frais de fonctionnement conséquent, pour qu'elle ait avec ça, la police pourra bien sécuriser la population.
Notons que sur place à Kananga, le dernier cas d'insécurité remonte à la nuit dernière où une femme a été molestée par des bandits armés en tenue d'uniforme, bien sûr, après une incursion domiciliaire. La victime est admise dans un hôpital de la place pour des soins appropriés. Dans la province de Lomami, arrestation ce lundi de deux présumés Kuluna dans le territoire de Ngandajika, à plus ou moins 90 km de Mbujimayi. D'après l'administrateur du territoire assistant en charge de l'administration, les premières informations en sa possession indiquent que ce jeune Jean se serait évadé du service national des Kanyamakasese dans la province du Haut Lomami. Jean-Marie Kabeya affirme qu'il présente des signes de fatigue et ont des tatouages sur leur corps. Après leur arrestation, ces deux personnes ont été mises à la disposition de l'auditoire des garnisons militaires de Ngandajika. Jean-Marie Kabeya a été joint au téléphone par Esther Ndarafina.
Hier aux heures du matin que l'un des nos chefs de cellule dans un quartier périphérique de la cité de Ngandajika nous a informé qu'il y avait dans son quartier des gens qui se fumaient en Lingala. Ils ne connaissaient pas une autre langue et qu'ils les avaient suspectés parce qu'ils étaient sales, avec un peu de cicatrices sur leur corps, et ainsi de suite. Ils nous ont saisi et nous avons déployé nos services de sécurité sur place. Ils se sont emparés de ces deux messieurs et les messieurs ont avoué qu'ils étaient en provenance de Kanyamakasese. Lors de l'interrogatoire, ils nous ont dit qu'ils ont été arrêtés à Kinshasa depuis 2018. Ils ont été transférés à Kanyamakasese en 2020, que les conditions de vie étaient devenues intenables. C'est pourquoi ils se sont évadés, ça pour retourner à Kinshasa. Et ils sont passés par Ngandajika. Ils doivent être de la première vague. À Kanyamakasese, dans les camps, ils sont en train de suivre une formation qui a trait à la formation militaire en dehors de l'agriculture. Les avions ont mis directement à la disposition de l'inspection de l'auditorat militaire qui est ici sur place. Pour l'instant, ils sont à la prison de Ngandajika. Ils sont consignés par l'inspection de l'auditorat.
Résurgence de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu. Le gouverneur des provinces appelle à l'intervention des partenaires techniques et financiers pour l'éradication de cette nouvelle vague de la maladie en province. Dans une déclaration devant la presse hier lundi, Karline Zanzoukasivita a appelé à la mobilisation nationale et internationale contre cette menace sanitaire. Il invite par la même occasion les populations à la stricte observance des gestes barrières et estime que les expériences du passé devraient être capitalisées pour vite stopper la propagation et venir rapidement à bout de cette maladie. Le gouverneur Karline Zanzoukasivita dans cet extrait choisi par Denise Lukeso.
Le Nord Kivu est encore une fois frappé par cette maladie à virus Ebola. Et nous pensons que nous devrions capitaliser toutes les expériences au regard de l'épidémie passée, une épidémie qui a été vaincue par les efforts de tout le monde, de la communauté internationale nationale et de la participation citoyenne. Nous demandons à la mobilisation de tout le monde, mais aussi à cette collaboration qui a toujours caractérisé la population du Nord Kivu dans le cadre de la riposte. Nous sommes regardés par cette petite expérience, mais cela ne peut être conforté que par la volonté commune de vaincre cette maladie à virus Ebola. Et nous pensons que cette volonté devra être mobilisée par nous tous. Nous comptons beaucoup sur les appuis des partenaires tels que l'OMS et d'autres structures qui sont engagées, l'UNICEF et autres. Nous comptons sur la mobilisation nationale en fait de réduire la propagation de la maladie dans la communauté.
Toujours selon le gouverneur Karlin Zanzoukassivita, un cas testé positif d'Ebola est notifié depuis dimanche à Biena dans le territoire des Lubero. Restons dans la province du Nord Kivu où la coordination provinciale de la société civile appelle le gouvernement à bien communiquer sur la riposte contre la 12e épidémie d'Ebola. C'est là dans le but d'orienter et rassurer la communauté que la situation sera vite maîtrisée. Edgar Matesso, vice-président de cette structure citoyenne, invite aussi la communauté à s'approprier la lutte en respectant les mesures barrières. Il a dit ce mardi à Butembo au micro de Florida Karambu.
Oui, en fait, la première recommandation, c'est de demander au gouvernement d'être prompt. La deuxième recommandation, c'est de demander au gouvernement et à tous ces professionnels de pouvoir améliorer la communication, parce que la communication compte. Pour autant que la communauté a besoin de messages qui rassurent, qui orientent, qui donnent l'espoir que la situation sera vite endiguée. Pour la 10e épidémie, beaucoup déjà ont estimé que la communication n'était pas adaptée aux réalités du milieu. Et maintenant, avec toute cette expérience, nous pensons qu'il y a certains éléments qu'on peut facilement corriger. Nous voudrions demander à notre population que chacun où il se trouve commence déjà à appliquer les mesures de prévention. Si nous évitons tous ces comportements négatifs, nous pourrons nous assortir avec ou sans moyens venus de l'extérieur. Il est possible de faire face à cette nouvelle épidémie et surtout si la communauté s'approprie la lutte.
L'espace médiatique de la Mongala est à nouveau trouble depuis la fermeture vendredi dernier des trois radios privées. Il s'agit de deux stations de radio Mwanamboka appartenant au gouverneur déchu Crispin Gbondou et de Radio Liberté du MLC. Leur fermeture fait suite à un ordre verbal intimé par Madame le gouverneur intérimaire Marie-Clémentine Solé. Cela a suscité la réaction du journaliste en danger qui a exprimé ses vives inquiétudes dans un communiqué de presse. L'ONG exige la réouverture immédiate de ce média. Le point pour Richard Malengela.
À travers cette alerte du 8 février, JED exprime ses inquiétudes en raison de la détérioration constante de la situation de la liberté de la presse dans la province de la Mongala, notamment par des cas d'attaques et de menaces contre les journalistes et les médias. Allusion faite à la fermeture depuis vendredi dernier des Radio Liberté et Radio Mwanamboka de Lissala, puis Radio Mwanamboka station de Bumba. L'ONG dénonce encore cette fermeture en cascade sur ordre verbal de Madame Marie-Clémentine Solé, gouverneure intérimaire pour outrage à l'autorité provinciale et incitation à la haine. Pourtant, poursuit le communiqué de JED, ces chaînes diffusaient des messages favorables au retour et à l'accueil le même vendredi de l'ancien gouverneur et de son vice, tous deux déchus. Par ailleurs, les émissions de la RTNC Lissala ont été interrompues par la même autorité alors que la chaîne recevait en direct un conseiller du gouverneur déchu. Arrêté d'abord, Didier Balimopala, animateur de l'émission, a été relaxé. Mais le conseiller en communication Amadeo Edame reste encore enfermé à la prison 22 de Lissala. Journaliste en danger condamne enfin les décisions jugées illégales de Madame la gouverneure intérimaire et exige par conséquent la reprise immédiate des activités de ces trois médias fermés. Bondaka pour Chamalingela Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, une dizaine d'opposants ont été incarcérés ce lundi et seront jugés pour avoir bravé une interdiction de manifester samedi, le jour de l'annonce de la candidature du chef de l'État à un sixième mandat en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Ils réclamaient une alternance au pouvoir et davantage de justice sociale, mais les rassemblements avaient été interdits. Une équipe internationale d'experts chinois et de l'OMS qui ont enquêté en Chine sur le COVID-19 a annoncé ce mardi 9 février n'avoir pas trouvé d'indication que le virus était présent à Wuhan longtemps avant sa découverte. Il n'y a pas assez de preuves pour déterminer si le SARS-CoV-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019, a indiqué Lian Wanyan, le chef de la délégation des scientifiques chinois, lors d'une conférence de presse. La métropole du centre de la Chine, un temps l'épicentre de l'épidémie, a été l'endroit du monde où les premiers cas de COVID-19 ont été rapportés.
L'invité.
La situation sécuritaire dans le secteur des Rwenzori encore confuse après une accalmie observée. Plusieurs villages subissent l'attaque des ADF. Quelle lecture fait l'armée de cette situation qui plonge à nouveau la population des localités de ces secteurs dans l'insécurité? Nous recevons comme invité le porte-parole des opérations Sokola 1 dans la partie grand nord de la province du Nord-Kivu. Le lieutenant Anthony Mwalusha y répond aux questions de Marc Marofimbo.
Monsieur le lieutenant Anthony Mwalusha, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le secteur de Rwenzori, jadis calme, mais ça fait 2 mois que la situation sécuritaire semble très perturbée et préoccupante à cette région. Quelle lecture l'armée fait de la situation en général dans le secteur de Rwenzori?
Vous savez, ça fait maintenant 2 jours, ensemble, toi et moi, nous sommes ici à Beni. Ce secteur a été réduit au silence. Il n'y avait plus des activités d'ADF depuis que l'armée a imposé sa force sur l'ennemi. Et l'ennemi a changé ses méthodes. Aujourd'hui, nous comptons le 3e cas des activités d'ADF dans ce secteur de Rwenzori, c'est-à-dire... On profite de la distraction parfois de certains de nos compatriotes ou soit de nos éléments déployés sur terrain. Et je peux vous donner l'exemple de Kissima. C'est en plein service. Ils étaient au champ des cacao où l'ennemi a profité de leur bruit parce qu'ils étaient en train de criailler. Je ne sais pas s'ils discutaient sur quoi. Mais l'ennemi qui s'est comporté comme un serpent est arrivé et a décapité ces gens sans tirer un coup de balle. Je peux vous donner l'exemple d'Alungupa récemment. C'est une maison où on trouve les femmes de joie qui prenaient de l'alcool et d'autres du chanvre. Et c'était avec de la musique, c'était vraiment de l'ambiance. L'ennemi est venu à 18h, il s'est associé à cette ambiance et il a profité à commettre ses actions. Là, nous déplorons au moins 5 personnes qui ont été tuées. Voilà un peu... la façon dont nous concevons les choses, c'est-à-dire l'ennemi fait maintenant des incursions pour se faire entendre parce que l'armée avait déjà réduit le nombre des combattants ADF sur terrain. Nous avons vraiment travaillé et cela ça a pris beaucoup de temps pour que l'ennemi commence avec douleur bien sûr à se manifester et nous appelons maintenant notre population à s'adapter à ces modes opérationnels de l'ennemi. Il ne faut pas être distrait. Nous avons remporté la bataille, mais nous n'avons pas remporté les combats.
Est-ce qu'on ne doit pas dire d'un côté, c'est aussi le problème du mariage civilo-militaire qui a un peu failli?
Je ne dirais pas 100% oui, mais quelquefois c'est vrai. Le mariage a été torpillé par les gens aux agendas cachés, avec des discours, des diabolisations, avec des intox, oui, mais nous sommes en train de travailler à l'interne comme à l'externe. Et d'ailleurs, nous projetons maintenant échanger avec nos élus, que ce soit au niveau provincial ou national, parce que tout ce que nous sommes en train de faire à l'interne, parfois, on les interprète mal. Peut-être c'est par manque d'informations. Or, nous sommes obligés de travailler en communion. Nous allons d'ici là commencer avec les activités de sensibilisation des journalistes de la ville pour comprendre que dans une zone opérationnelle, bien sûr, l'information est sacrée, mais il y a façon de donner cette information. On ne veut pas changer leur ligne éditoriale, mais nous devons expliquer aux journalistes, aux responsables de médias, ce que c'est le terrorisme, ce que nous vivons ici, et éviter de voir tout en noir. La population écoute attentivement les radios et en confiance aux journalistes. Et quand le journaliste déclare quelque chose, c'est la vérité absolue et la population accepte ça. La population écoute nos élus et quand les élus déclarent quelque chose, que ça soit vrai ou faux, mais la population accepte. Alors nous devons tous voir dans la mesure du possible comment communiquer avec la population, quel message nous devons donner à la population pour ne pas jouer léger de l'ennemi.
Mon lieutenant, pendant ce temps, la société civile dans le secteur de Rwenzori réclamerait que l'ICCN et la MONUSCO soient plus engagées dans les données des renseignements et que l'armée soit plus offensive. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette recommandation ou demande de la société civile?
Oui, c'est une demande fondée. Ça montre que du côté de la société civile et du côté de l'armée ou du côté de nos partenaires sur le terrain, tous nous devons évoluer dans la recherche de la paix. Il nous faut maintenant que et la société civile et la MONUSCO et l'UCCN, donc tout le monde, travaille main dans la main. C'est-à-dire que quand la population alerte, ça ne suffit pas seulement de dire dans des réseaux sociaux que tournons nos caméras vers tel village qui est, il y a la présence de l'ennemi. Il faut suivre, c'est-à-dire il y a des canaux par lesquels on peut envoyer directement ces alertes que dans les réseaux sociaux. Parce que l'ennemi aussi est dans les réseaux sociaux. Et quand vous alertez dans les réseaux sociaux, l'ennemi se déplace facilement. C'est l'ennemi qui va gagner et non pas ni l'armée ni le peuple congolais.
Lieutenant Anthony Malchai, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Dieudonné Nyangasa qui a mis en nom de ce journal coordonné par Alain Irung, coordonné par Élisée Tchikota et supervisé par Alain Irung. Je vous retrouve tout à l'heure à 14h pour un autre bulletin d'information. Mais n'oubliez pas que l'ensemble de nos informations sont sur www.radiocapi.net.